Je suis persuadé que vous avez passé votre jeudi à contempler le Christ. Que vous avez passé votre jeudi à vouloir adorer le Christ. Je ne dis pas que cette volonté, après on n'arrive pas toujours, hein, mais au moins cette volonté, aller dans cette direction. Je suis persuadé que vous avez fait ça. Je suis persuadé que vous avez même pris un vendredi de repos pour continuer dans cette dynamique et finir aujourd'hui dans cette dynamique. Oui, l'État français nous offre un jour pour que nous puissions adorer notre Seigneur. C'est beau quand même, non? J'espère que vous n'êtes pas libre penseur. On peut remercier l'État pour ça, mais est-ce qu'on le prend vraiment? Est-ce qu'on prend vraiment ce temps d'adoration du Christ en ce jour de l'Ascension? J'étais surpris de regarder dans la librairie chrétienne, très peu d'ouvrages, de livres ou d'articles qui se réfèrent à l'Ascension. On en a énormément sur la Pâque, sur la Résurrection, sur la Pentecôte, mais sur l'Ascension, j'ai senti le vent passer, le sable et les bottes de paille rouler. Et nous sommes convaincus, en tant que chrétiens, qu'il est bon de fêter Pâques. Et je rappelle que Pâques, c'est la mort du Christ. C'est la mort du Christ pour nos péchés. C'est lui qui s'est donné. La mort est morte à Pâques. La résurrection, c'est qu'un symbole, La résurrection n'est que la démonstration que la mort est bien morte, que le sacrifice du Christ est bien valide. Après sa résurrection, vous avez vu qu'il y a une période de 40 jours. Dans la Bible, quand on parle de 40 jours, il y a quelque chose de symbolique. Ou c'est plutôt, on appelle ça, c'est une période de désert, une période de un peu perdue. C'est une période d'épreuve. Ça, c'est ce que symbolisent les 40 jours, en général. C'était une épreuve pour les disciples. Est-ce que la résurrection est bien vraie? Et après, Jésus monte vers le Père. Alors, on a tendance à penser que l'Ascension, c'est quelque chose où Jésus est monté dans une fusée pour monter vers le ciel. Mais quand on dit que Jésus est monté au ciel, c'est juste pour dire que le ciel, c'est là où est Dieu, le Père. C'est l'endroit où se situe, on va dire, Dieu le Père. Alors, ce n'est pas un endroit qu'on pourrait dire la France, qu'on peut pointer. Hein. Il y a la terre, il y a l'endroit intermédiaire, il y a les cieux où règne Dieu. Et donc, ça veut dire que Jésus est parti rejoindre le Père. Il n'y a pas forcément un truc avec un ascenseur ou une fusée à réaction. Je voudrais regarder avec vous un peu plus quand même l'Ascension. Ce qui a été pour moi assez compliqué, de trouver des choses, ou en tout cas, ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de regarder, il me semble, en tout cas pour ma part. Je vous propose une petite réflexion sur l'Ascension et à quoi sert l'Ascension réellement. À l'Ascension, Jésus est manifesté roi. Jésus reprend sa place de roi. À l'Ascension, Jésus est manifesté grand prêtre. On va expliquer un peu ce que c'est. Et la réponse des vieillards liée à l'Ascension. Donc, ce n'est pas vous les vieillards, c'est des personnes dans la Bible. Jésus est manifesté roi à l'Ascension. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu. En reprenant sa place à la droite du Père, le Fils incarné fait entrer l'humanité au ciel. Jésus est monté avec son corps charnel en tant qu'homme. Jésus, c'est le premier homme à participer dans son humanité totale avec son corps à la gloire céleste. C'est ce Jésus qui règne au ciel. C'est pas un esprit, c'est Jésus avec son corps qui est au ciel. Quand on dit qu'il est à la droite du Père, ça veut dire qu'il est quelque part, dans des ouvrages, il parlait de lieutenant. En tout cas, c'est quelqu'un qui règne sur la terre avec le Père. Jésus n'est pas juste là pour ça, comme ça. Il n'est pas juste à côté du Père en attendant tranquillement que tout se passe bien ou tout se passe mal, suivant votre optimisme. Il n'est pas là, il est là pour régner. Il est là pour régner. Et comme il est à côté du Père, il exerce certaines compétences, il exerce les mêmes compétences que le Père. Dans l'Ancien Testament, on a, par exemple, qu'est-ce que fait Dieu ? On dit que c'est à lui qu'appartient la grandeur, la puissance, la splendeur, l'éclat et la majesté. Oui, dans le ciel et sur la terre, tout t'appartient, Seigneur, car tu es le roi, le souverain maître de tous les êtres. Jésus, en étant avec le Père, en étant à sa droite, a les mêmes droits. Je ne sais pas, droit, pouvoir, vous mettez le mot que vous voulez, mais en tout cas, exerce les mêmes activités. C'est plus mieux comme ça, c'est mieux comme ça. Et Jésus exerce les mêmes activités que le Père. Il règne sur la création. Nouveau Testament, où on aura le schéma qui se profile un peu mieux pour Jésus, on y dit clairement, en 1 Pierre 3:22, que Jésus, depuis son ascension, siège à la droite de Dieu et à qui les anges, les autorités et les puissances célestes sont soumises. Je relis. Depuis son ascension, il siège à la droite de Dieu et à qui les anges, les autorités et les puissances célestes sont soumis. Surprenant. Surprenant, on dit qu'il règne. Mais est-ce qu'il règne ? Où est-ce qu'il règne ? Comment il règne ? On n'a pas l'impression que Christ règne pleinement sur cette terre. Des fois, on se demande, mais qu'est-ce qu'il fait ? C'est un point assez important de la pensée. Comment concilier que Dieu règne et pas règne totalement, qu'on n'est pas totalement avec le Christ. Et je ne voudrais pas rentrer dans ce détail. Je pense que ce serait un autre sujet que je vous propose plus tard. C'est-à-dire qu'il faut que je travaille. Mais c'est un sujet que je vous propose pour plus tard, de savoir comment Jésus règne à la fois dans les cieux, mais que tout n'est pas sous l'autorité du Christ ici-bas. Henri Blocher, un théologien actuel, il écrit que le règne du Christ sur le monde est invisible, objet de notre foi, en particulier parce qu'il n'anéantit pas instantanément l'opposition de ses adversaires. Il a le caractère d'une conquête, médiation royale, militante et progressive. Ce n'est pas que les ennemis échappent encore à sa souveraineté. On voit ça nulle part dans l'Écriture. Plutôt, il appartient à la sagesse de ce gouvernement de laisser un sursis au vieux monde avec tout ce que cela implique, jusqu'au jour où le nombre des enfants sera complet et en canalisant les œuvres même des méchants au profit du plan de Dieu. Dieu laisse un sursis à ce monde pour qu'il se tourne vers lui, pour qu'un maximum de personnes se tournent vers lui. Il attend encore avant de régner totalement sur sa création. Mais en tout cas, Jésus règne déjà sur son Église. Paul nous rappelle aux Éphésiens qu'il a tout mis sous ses pieds, que Dieu a tout mis, je vous relis le verset. Dieu a ressuscité le Christ d'entre les morts. Il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus, on retrouve ça, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Jésus est celui qui règne sur son Église. Il l'a établi comme chef suprême à l'Église, l'Église qui est son corps. Nous sommes le corps du Christ. À pas confondre avec le Sassène. Nous sommes le corps du Christ. Nous avons pour chef le Christ. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelles sont les conséquences de ça ? J'en propose deux. En étant en Christ, en ayant Christ pour chef et notre chef qui est dans les lieux célestes, nous siégeons aussi dans les lieux célestes, comme le rappelle Paul, Éphésiens 2:6. C'est marqué, vous sommes déjà assis dans les lieux célestes. Ce qui implique que notre espérance est quelque chose de concret. Nous sommes déjà en possession de ce cadeau, d'être dans les lieux célestes avec le Christ. Ce n'est pas quelque chose de fumeux. On se dit, ouais, si tu es gentil, si tu viens avec moi, je te mènerai dans les cieux avec moi. On a déjà notre chef qui est déjà dans les cieux, qui nous prépare une place, et nous sommes déjà, grâce à lui, en tant que représentant, il est notre représentant en tant que chef, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. Et on a une espérance qui est, je dirais, plus, c'est pas fumeux, voilà, c'est quelque chose de concret, enfin, plus plausible, mais c'est pas le mot que je vais utiliser, mais plus dans cette direction. Si Christ est notre chef, si Christ est le roi sur son Église, ça veut dire qu'il règne. Et si, quand il règne, il nous protège. Un roi protège ses sujets. Le roi protège son peuple. Il subvient à ses besoins. Il leur donne ce qu'il faut pour vivre. C'est ce que fait Christ pour nous. Il subvient à nos besoins. Parce qu'il a repris sa place auprès du Père en tant que roi. Il veille sur nous. Être roi pour le Christ, c'est pour nous important. Si Jésus n'était pas remonté auprès du Père, il ne pourrait pas subvenir à nos besoins. Il ne serait pas auprès du Père pour subvenir à nos besoins. Ça nous invite à savoir qu'est-ce qu'on fait quand Christ nous demande quelque chose. Notre chef nous oriente dans une direction. Comment on répond à cette invitation ? Lui qui veut notre bien, lui qui veut régner sur nous, qui veut nous protéger comme un roi fait avec ses sujets, par amour. À l'ascension, Jésus est manifesté grand prêtre. Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude de lire l'Ancien Testament. En tout cas, je vais vous rappeler ce qu'est un prêtre et un grand prêtre. C'est une personne qui représente des hommes auprès de Dieu. C'est un représentant des hommes auprès de Dieu. À l'inverse des prophètes, le prophète, c'est un représentant de Dieu aux hommes. Le prêtre représente les hommes auprès de Dieu. Le prophète représente Dieu auprès des hommes. Ça, c'est le rôle du prêtre, du grand prêtre, de représenter les hommes auprès de Dieu. Il est au service du culte. Il est au service pour que la prière et la louange des fidèles puissent accéder à Dieu. Et le prêtre, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, accomplissait des œuvres et des sacrifices pour éliminer les obstacles liés au péché. Le rôle du prêtre ou du grand prêtre est là pour régler les problèmes liés au péché, pour rétablir cette relation avec le Père. Il le fait au nom des hommes, pour les hommes. Le grand prêtre est pris d'entre les hommes. Il est établi dans le domaine divin, dans le but de présenter les offrandes et les sacrifices pour les péchés. Le prêtre est un homme. Jésus est grand prêtre. Jésus est un homme, comme l'un des nôtres. En ce qui concerne le temple, parce que le prêtre, il officie dans un temple. Qu'est-ce que fait le temple ? À quoi il sert ? Et là, je vous lis en même temps Hébreux 9. Dans le temple, donc c'est le lieu où on va adorer Dieu. C'est le lieu où la présence de Dieu est manifestée. Il nous est dit que dans la construction de la première partie, on a un chandelier et la table avec des pains offerts à Dieu. On l'appelle le lieu saint. Derrière, il y a un second rideau. On a venu la partie de la tente qu'on appelle le lieu très saint. Dans le lieu très saint, il y a un brûle-parfum en or, le coffre de l'Alliance entièrement plaqué d'or. Ce coffre contient un vase d'or avec de la manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tablettes de pierre de la loi sur lesquelles étaient écrites les paroles de l'Alliance. Et l'auteur continue en disant « Mais ce n'est pas le moment de parler de chacun de ces objets en détail. » Donc je vais m'arrêter là, selon l'encouragement de l'auteur, dans la description du temple. Dans le temple, on a un lieu saint, un lieu très saint. Dans le lieu très saint, on a l'arche de l'Alliance, on a un coffre où on a les tablettes de la loi, on a le bâton d'Aaron et un vase d'or avec de la manne. Ce coffre est là pour représenter la présence de Dieu. Les tablettes de la loi, manifestent qui est Dieu, sont là pour représenter Dieu. Et de temps en temps, le grand prêtre allait dans ce lieu-là pour aller rencontrer Dieu et pour aller offrir le sacrifice. Le prêtre entre en tout temps dans la première partie du tabernacle pour accomplir le service, et dans la seconde, le grand prêtre est le seul à pénétrer, et cela une fois par an. Et il ne peut pas entrer dans le lieu très saint, dans la deuxième partie, sans apporter le sang d'un sacrifice qu'il offre lui-même, pour lui-même et pour les fautes du peuple. Donc le grand prêtre, je lis en même temps hébreu, hein, donc ça pourrait se lire plus facilement, mais hébreu nous rappelle que le grand prêtre va dans le lieu très saint pour apporter le sang de l'animal auprès de Dieu. Ça peut faire un peu barbare. Alors, comment ça se passe? Je rappelle le coffre avec un couvercle. Le couvercle, il aspergeait le couvercle du sang pour apaiser la colère de Dieu. Dieu est en colère contre nous quand nous sommes pécheurs. Il est en colère contre les hommes qui sont désobéissants par rapport à lui, qui ne veulent pas de lui. Et le sacrifice, le sang, est là pour couvrir la loi de Dieu, la présence de Dieu, pour couvrir le coffre, pour rendre propice Dieu, pour apaiser sa colère. On appellera ça peut-être le propitiatoire, si vous voulez, pour rendre propice Dieu. Et le prêtre y allait en offrant le sang pour lui-même et aussi pour le peuple. Il ne suffit pas juste de sacrifier l'animal, mais il faut aussi aller jusque dans le lieu très saint pour apporter le sang de l'animal. Jésus est manifesté grand prêtre à l'ascension. Jésus est bien meilleur que tous ces grands prêtres dans l'Ancien Testament. Il n'est pas comme les autres. Pour lui, son sacrifice, il est unique. Il n'a pas à se sacrifier tous les jours et apporter tous les jours son sang dans le lieu très saint. Non, il sacrifiait une fois et il apporte son sacrifice une fois pour toutes. Hébreux 9, versets 11 à 12, nous dit qu'il a traversé un tabernacle, un temple, plus grand et plus parfait que le sanctuaire terrestre. Un tabernacle qui n'a pas été construit par des mains humaines, c'est-à-dire qui n'appartient pas à ce monde créé. Il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il y a offert non le sang des boucs et des bœufs, mais son propre sang. Il nous a ainsi acquis un salut éternel. Christ n'est pas seulement mort pour nos péchés, il est allé apporter, ce texte nous dit, il est allé apporter son sang dans le sanctuaire. Et pas comme les grands prêtres, où il y allait juste une fois par an, après il repartait. Jésus, il apporte son sang, il reste à cette place, dans le lieu très saint, si vous voulez un peu le parallèle. Jésus n'est pas, il va pas faire un aller-retour, hop hop, il y va, il reste, il siège dans ce lieu très saint. Jésus, le rôle du prêtre, du grand prêtre, c'est de représenter les hommes auprès de Dieu. Jésus, à l'ascension, monte auprès de Dieu, dans le lieu très saint, pour nous représenter. Le fait central du salut n'est pas tant le crucifixion, ni même la résurrection de Christ, que l'entrée du grand prêtre dans le lieu, temple des cieux. L'ascension est importante. Jésus, en siégeant à la droite de Dieu, est devenu un médiateur. Le rôle du grand prêtre, ou du prêtre dans l'Ancien Testament, c'est d'être un médiateur, de représenter les hommes auprès de Dieu. Jésus n'est pas un de ces médiateurs, c'est le médiateur, celui qui va rester dans la présence de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on voit qu'il y a plusieurs médiateurs qui ont été envoyés. Donc on a les prophètes qui sont là pour ça, les prêtres. Jésus est venu comme médiateur parfait. Paul nous rappelle qu'il n'y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. 1 Timothée 2,5. Depuis Jésus, il n'y a plus d'autre médiateur. Personne d'autre. Pas d'autre médiateur possible. Même pas le plus fervent des hommes. Même pas la plus bénie des femmes. Le seul médiateur que nous affirme Paul, c'est le Christ. Il nous acquiert un salut éternel. Il siège éternellement auprès de Dieu. Il ne va pas repartir. Il siège éternellement auprès de Dieu pour nous, pour notre salut. Il siège pour nous auprès de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est médiateur, mais il intercède aussi pour nous. Le rôle du prêtre, je le rappelle, c'est de nous montrer Dieu, c'est de nous représenter auprès de Dieu et d'intercéder pour nous. Jésus nous représente auprès de Dieu et intercède pour nous auprès de lui. Notre péché nous éloigne de Dieu. Notre faute, notre désobéissance nous éloigne de Dieu. Jésus, par son sang, nous rapproche de Dieu. Jésus intercède pour nous, toujours. C'est pour ça qu'on va prier au nom de Jésus, comme notre représentant auprès de Dieu, notre représentant qui valide ce que nous voulons. Sinon, ça ne sert à rien de prier au nom de Christ, hein, si lui-même ne valide pas. Jésus est auprès de Dieu pour intercéder pour nous. Il peut intercéder pour nous parce que c'est un homme semblable à nous, avec notre corps. Il est de la même nature que nous. Il connaît nos faiblesses, il connaît les faiblesses et peut intercéder pour nous auprès de Dieu. Comme un bon représentant syndical, il est avec nous et il siège auprès du Père. Il n'est pas juste un invité ponctuel au siège, mais il siège de façon permanente auprès de Dieu à sa droite. Et je prends le terme exprès d'un représentant syndical pour mettre en lumière qu'on pourrait croire qu'il y a une opposition entre le Père et le Fils. Aucunement, la Bible nous parle d'une opposition entre le Père et le Fils. Aucunement, Jésus est en train de nous défendre contre le vieux Père fouettard qui sacrifie des gens. Non, Jésus n'est pas là pour nous défendre auprès du Père. C'est le Père lui-même qui s'offre sur la croix. C'est le Père lui-même qui s'est donné à la croix. C'est le Père lui-même qui décide d'envoyer, de se sacrifier pour rétablir cette communion. Le médiateur en question, c'est lui-même. Père, c'est Dieu, Fils. Il n'y a pas de combat entre le Père et le Fils. Ils sont dans cette même dynamique de vouloir réconcilier le monde avec lui-même. Et on touche là au mystère de la Trinité. Mais en tout cas, à aucun moment dans la Bible, on a une opposition entre le Père et le Fils. Ce n'est pas le bien ou le mal, ou je ne sais pas ce que vous voulez, qui se combattent. Non, les deux vont dans la même dynamique de sauver le monde, de se réconcilier avec lui. Quand il est écrit qu'il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis, quand Jésus dit ça, quand Dieu dit ça, c'est lui qui se donne pleinement à la croix. Jésus, en étant monté au ciel, intercède pour nous. Pas seulement momentanément, ce temps de sa vie terrestre, mais pour toujours. Jésus, homme et Dieu, pleinement homme et pleinement Dieu, pleinement homme, qu'on nous comprend et peut intercéder pour nous. Et pleinement Dieu pour rester aussi dans la présence du Père. C'est lui, ce Jésus, notre roi, notre médiateur, notre gouverneur. Et Calvin écrit que Jésus règne pour nous, plus que pour lui. Jésus se donne totalement pour nous. Les vieillards dans l'Apocalypse, comment ils répondent à cette offre ? Ah, je ne l'ai pas mis. Comment ils répondent à cette offre ? Dans l'Apocalypse 5, on voit qu'il est question d'un livre et personne n'arrive à ouvrir ce livre. Vraiment personne. Il n'y a personne, soit au ciel, sous la terre, sur la terre et sous la terre. Vous voyez, il énumère tout pour dire qu'il n'y a vraiment personne, si on n'avait pas compris. Personne ne peut ouvrir. Et pleure, et Jean pleure abondamment. Qui va pouvoir ouvrir ce livre? Et là, le Sauveur du monde arrive. C'est Jésus. Il arrive, il va ouvrir ce livre. Et qu'est-ce qui va se passer? Comment les gens vont répondre? Les vieillards en particulier, ou les autres, vont se mettre à jouer, à chanter. Ils vont dire, oui, tu es digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu étais mis à mort et tu as été racheté pour Dieu par ton sang répandu. Des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Et après, il continue. Et je vois, et j'ai entendu la voix d'anges rassemblés en grand nombre autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Ils étaient des milliers de milliers, des millions de millions. Et ils disaient d'une voix forte, « Il est digne, l'agneau qui fut égorgé, de recevoir la puissance, la richesse et la sagesse, la force et l'honneur et la gloire et la louange. » Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tous les êtres qui peuplent l'univers, je les entendis proclamer, « À celui qui siège sur le trône et à l'agneau soit louange et honneur, gloire et puissance pour toute éternité. » Un chapitre, la réponse des êtres vivants, sur ce que fait le Christ. Ils adorent, ils sont des milliers, des milliers, des millions de... Tout le monde adore le Christ. Comment adorons-nous en ce temps de l'Ascension? Je vous ai proposé peut-être plus de titres que de contenu, peut-être. Mais en tout cas, c'est à l'Ascension que Jésus reprend sa place de roi auprès du Père. Grâce à ça, Jésus, en étant manifesté grand prêtre et médiateur pour nous auprès de Dieu, il intercède toujours pour nous. Ce Jésus qui a tant donné, pourquoi aller voir ailleurs qu'en Jésus? Jésus, homme et Dieu, quand on voit tout ce qu'il fait pour nous et qu'il est toujours là, ça devrait nous pousser à l'adoration, ça devrait nous pousser à avoir confiance en lui. Et l'objectif de ce matin n'est pas de dire que l'on fait peut-être mal, c'est de nous encourager à faire plus. Continuez à adorer le Christ. Continuons à adorer le Christ. Jésus fait ça pour nous. Je vous encourage cet après-midi à relire les chapitres d'Hébreux, des chapitres 5 à 10. Je vous propose un temps de réflexion personnelle. Notre bon Père Céleste, nous voulons t'adorer, nous voulons dire à notre tour que tu es digne, que tu es celui qui a la gloire, la puissance et l'honneur pour toujours. Nous voulons te remercier pour ce que tu déploies pour nous au quotidien, le fait que tu intercèdes pour nous pour toujours, le fait que tu nous comprends en ta qualité d'homme. Tu as vécu les choses pleinement comme nous, avec d'autres souffrances. Seigneur, nous voulons te remercier pour ton œuvre, pour ton ascension. Merci d'être là auprès du Père. Merci de nous diriger, merci de diriger ton Église. Seigneur, aide-nous à prendre du temps à contempler ce que tu fais pour nous, à contempler ton œuvre et attendre ton retour. Amen.